France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Nous sommes le samedi 3 juillet, soyez les bienvenus sur France Musique. Félix Levaché est à la réalisation, Alexandre Billard et Frédéric Kiefer à la technique. J'espère que vous allez bien, que ce début de vacances d'été se passe à merveille et en musique. Voici le menu du jour. À 7h45, Marc-Olivier Dupin sera avec nous pour parler de ce flash mob de chant choral qui se tiendra aujourd'hui partout en France, RDT, la fête estivale des chœurs amateurs. C'est son titre. Marc-Olivier Dupin qui poursuivra à 8h avec sa chronique Battement de cœur. Il nous dira comment profiter polyphoniquement de l'été. À 8h15, notre reportage Sophia Anastasio nous emmènera à l'Espace Cardin, où deux journées de débats autour de la culture de demain étaient organisées par Télérama et le Théâtre de la Ville. À 8h30, notre invitée sera Isabelle Moindreau, professeure d'études théâtrales à l'Université Paris 8, à l'origine d'une série d'enquêtes sur le thème de l'opéra et de l'écologie. Et puis à 8h50, Christophe Chassol nous parlera du groupe antillais JM Harmonie. Très bon début de journée à notre écoute.
Speed.
un extrait de ce disque reflet de la première Royal Academy of Music, lieu d'ébullition musicale créé par ceux qui voulaient que Londres devienne la nouvelle capitale de l'opéra et dont Handel fut directeur musical lors de sa création en 1719. Ici, un extrait de son opéra Jules César en Égypte, un air colérique chanté par Sextus dont le père a été assassiné par Ptolémée, roi d'Égypte. On écoutait ici la merveilleuse Eva Zajcik accompagnée par le consort. Et puisqu'on parle de musique baroque, parlons de ce festival Mars en Baroque, dont la 19e édition se tient jusqu'à lundi à Marseille. Rendez-vous tout à l'heure en l'église Saint-Théodore à 17h pour des inventions, symphonies et autres curiosités jouées par les élèves du conservatoire Pierre Barbizet de Marseille. Et puis à 20h, avec l'extraordinaire Amandine Beyer et ses Inconiti qui rafraîchiront les concertos que Jean-Sébastien Bach a écrits pour le prince Léopold à Köthen. Une seule adresse pour prendre vos places, www.marsanbaroque.com. L'ensemble L'Incogniti qu'on écoute tout de suite avec ce concerto écrit pour un autre prince, Nicolas Esterhazy, concerto pour violon, dont voici le premier mouvement, Joseph Haydn à la composition. Le premier mouvement du concerto pour violon en ut majeur de Joseph Haydn, interprété ici par Amandine Beyer et L'Incogniti. Il est 7h45. Et Et c'est l'heure du show musical d'un artiste à l'heure du petit déjeuner. Bonjour Marc-Olivier Dupin.
Bonjour Saskia.
Quel plaisir de vous accueillir dans cette case. Vous êtes un petit peu plus tôt que d'habitude en studio. Vous êtes compositeur, notre très cher chroniqueur, mais vous êtes aussi à l'origine de cet événement qui se tiendra aujourd'hui, ce flash mob de chant choral, qui se tiendra donc aujourd'hui partout en France. RDT, la fête estivale des chœurs amateurs. Mais donc, quelle situation se trouvent les chœurs amateurs aujourd'hui? Comment se portent les chœurs amateurs aujourd'hui, Marc-Olivier?
Alors, les chœurs amateurs sont en convalescence aujourd'hui, parce que là, après ces deux années scolaires très perturbées, des contraintes sanitaires drastiques, parfois d'ailleurs plus drastiques pour les amateurs que pour les professionnels, paradoxalement, les chœurs ont eu la vie dure et donc ce petit événement a pour but tout simplement de redonner un objectif modeste, parce que chanter 10 minutes, 15 minutes, c'est pas un programme gigantesque, et de leur redonner un peu de visibilité aussi en extérieur, ce qui est très bien pour des raisons sanitaires, et donc de retrouver une pratique festive et joyeuse.
Et partagée. Oui. Justement, concrètement, comment ça se passe? Comment cela va-t-il se passer? Qu'est-ce qui était demandé aux chœurs amateurs? On en avait un petit peu parlé la semaine dernière, mais rappelez-le-nous.
Alors, ce qui était demandé, c'était tout simplement de faire un flash mob, c'est-à-dire de chanter une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes en extérieur, de filmer, ne serait-ce qu'avec un iPhone ou n'importe quel smartphone, de filmer cette prestation et après qu'on la mette sur le site de l'association Le Grand Mélange pour pouvoir partager ces moments joyeux.
Alors effectivement, l'association Le Grand Mélange milite pour le chant choral, est à l'origine de cet événement, mais il y a des événements aujourd'hui, Marc-Olivier.
Il y a beaucoup d'événements aujourd'hui. Alors, le succès est modeste dans le sens où il n'y a qu'une trentaine de chœurs, mais ça représente quand même plus de 1200 choristes quand on fait le compte. Et ces chœurs vont se produire dans différents endroits de leur choix et à l'heure de leur choix également. Je peux vous en donner quelques exemples. Par exemple, sur le bassin d'Arcachon, dans un petit village qui s'appelle Arès, à 14h au port austraïcole, le chœur Colcanto va se produire. À Chalex, à 18h30 rue de la Mairie, le groupe vocal La Campanella. À Strasbourg, l'ensemble vocal Quintessence, rue des Grandes Arcades, à 11h30. Vous voyez, c'est tout à fait libre. Les programmes sont libres, il n'y a aucune contrainte par rapport au programme. On a aussi bien du gospel que des arrangements rock, que des chœurs d'enfants, enfin c'est très varié.
Et donc c'est à découvrir un petit peu partout en France. Il y a un site, une carte a été constituée aussi.
Oui, le site s'appelle RDT et si vous cliquez dessus, vous trouverez une très belle carte de France avec des petits points qui sont les lieux de
rendez-vous, voilà, que vous donnent ces différents chœurs amateurs. L'adresse, c'est donc RAIRS-ET.fr. Vous retrouverez aussi bien cette adresse sur le site de francemusique.fr. Évidemment, sur la page de Musique Matin de cette émission. Marc-Olivier, cela va-t-il devenir un rendez-vous récurrent? Chaque année, on fêtera le chant choral le 3 juillet, dorénavant.
Écoutez, moi je trouve que ça serait bien de faire une fête du chant choral, parce que d'abord on a besoin de soutenir toutes les pratiques vocales et chorales, et pourquoi pas le premier samedi de juillet, donc j'espère qu'on va renouveler cette expérience l'année prochaine, mais avec encore beaucoup plus d'inscrits, et un éclairage le plus vif sur ce projet. En tout cas, on est évidemment très heureux que France Musique soit partenaire de cette opération.
Mais parce que nous soutenons évidemment tous les joyeux événements et les beaux événements, Marc-Olivier, dont ce, je rappelle, flash mob de chant choral qui se tiendra partout en France aujourd'hui, RDT, la fête estivale des chœurs amateurs. Je vous rappelle l'adresse, chers auditeurs, si vous voulez eh bien consulter cette carte interactive, vous pourrez voir s'il se passe un événement près de chez vous aujourd'hui. Il y a des événements qui commencent déjà en matinée et d'autres qui se termineront en soirée. Le site RDT France-Musique-été.fr à retrouver donc sur la page de l'émission sur France-Musique.fr. Marc-Olivier, vous avez choisi de nous faire écouter quelque chose.
Oui, un chœur d'enfant que j'aime beaucoup, j'ai d'ailleurs contribué à le créer il y a fort longtemps, c'est le chœur d'enfant Sotto Voce. Et voilà, vous pourrez les retrouver donc à 13h place du Châtelet à Paris si vous êtes dans le coin.
Et le chœur Sotto Voce aussi pour Over the Rainbow. Chœur à retrouver donc sur la place du Châtelet à 15h aujourd'hui dans le cadre de cet événement, ce flash mob de chant choral RDT. Les frivolités parisiennes, compagnie où s'embrassent chant, théâtre et danse, compagnie qui nous fait depuis quelques années déjà redécouvrir le répertoire lyrique léger français des 19e et 20e siècles. Et bien, les frivolités parisiennes sortent un nouvel album, Le Diable à Paris de Marcel Lattès, œuvre créée en 1927, œuvre rare au confluent de la musique savante et du jazz band des années 20, un ouvrage dans lequel l'homme se révèle être plus diabolique que le diable lui-même. Ce disque vient de paraître chez B Records en partenariat avec France Musique. Les frivolités parisiennes seront d'ailleurs présentes dans l'émission Génération France Musique Le Live tout à l'heure, 16h sur France Musique, pour tenter votre chance de remporter ce nouveau disque. Rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous cliquez sur « Contactez-nous » et nous donnez la bonne réponse à cette question. Qui présente l'émission Génération France Musique Le Live? Est-ce Marc-Olivier Dupin, Clément Rochefort ou alors Romelu Lukaku? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
À la jolie gare de Barrière, chose inédite, devinez vite, nous apportons de vite les dons des marguerites.
Il n'y a plus personne, venez plus vite, comme c'est aujourd'hui la Sainte Marguerite. Tous en cachette, nous venons faire, nous venons fête à la jolie gare de Barrière, chose inédite. Fille, moins fière, heureuse nuit.
assez pour être son mari.
Il ne faut pas qu'on vocifère comme on les fait chaque nuit. Elle ne me ferme pas, s'il vous plaît. Ils sont ses
Les tombeaux sont égards dans le temps. La 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 la. C'est pas trop fantasque que nous n'avons répété qu'une fois. Pour notre cœur et pour nos reculateurs, que votre cœur soit du moins indulgent. La raison d'être d'une sérénade est avant tout de réveiller les gens. Je vois bouger une persienne. Je vois une main. C'est la sienne.
C'est la sienne. Son jeune sang, son rire ça, et le dessin de sa bouche. Ses yeux regardent, ses traits vainqueurs, quand tous les cœurs ont fait bouche.
Un extrait de ce Diable à Paris de Marcel Lattès, interprété par les Frivolités Parisiennes. Disque à remporter aujourd'hui sur francemusique.fr.
Découvrez la 41e édition du Festival international de piano de la Roque d'Anteron du 23 juillet au 18 août. Une édition solaire installée sous la canopée des platanes du parc du château de Florent au rythme de 3 concerts par jour. À l'affiche, les grands comme les révélations pour 3 semaines et plus de musique au cœur de la Provence. Un partenariat à retrouver sur France Musique et francemusique.fr.
Passons l'été ensemble avec Radio France.
Un été culturel et musical.
Un été pour se faire plaisir.
Un été de rencontres.
Un été pour apprendre.
Un été sportif.
Toutes les antennes de Radio France vous ont concocté des programmes sur mesure pour vous accompagner.
Et pour celles et ceux qui veulent emmener la magie du son dans leur bagage, téléchargez l'appli Radio France sur votre smartphone et plongez dans 1,5 million de podcasts.
Passez un bel été avec Radio France où vous voulez.
Quand vous voulez.
En direct ou en podcast.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là.
Très bon réveil à l'écoute de France Musique. Très bon début de journée, il est 8h. C'est l'heure de la chronique. Battement de cœur de Marc-Olivier, Marc-Olivier Dupin. Nous célébrons l'été ce matin.
Mais oui, et avec qui ? Avec les sœurs Garnier.
Et voici les célèbres sœurs Garnier.
Quand l'été a disparu, l'été, quand le temps s'en est allé, étalé du côté des saisons, ma saison. On ne peut que soupirer,
regretter l'été, mais pour...
Michel Legrand, quelle énergie! Les musiques consacrées à l'été sont-elles toujours aussi toniques, Marc-Olivier?
Pas toujours. Comme par exemple ce que font les King's Singers. The Summertime est un délice de sérénité.
Olivier, avant de se séparer pour l'été, dites-nous vos secrets. Où trouvez-vous toutes ces musiques vocales et polyphoniques que nous retrouvons ou découvrons avec vous?
Alors j'adore me balader sur YouTube des heures durant. Ça me fascine parce que la question du geste vocal ou geste instrumental est tellement importante dans le rapport à la musique. C'est vrai d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime les concerts, entre autres. Donc cette question de l'image, pour moi, elle est très importante quand je cherche des musiques. Et YouTube est évidemment un grand espace où on trouve des tas de choses. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir deux filles ados, Lila et Elia, qui font mon éducation musicale en me sortant du contrepoint classique de la Renaissance, Brahms, tout ça. Alors voilà, pour vous et pour elles deux, un extrait de Grease que j'adore et qui nous fait entrer dans l'été de façon péchue.
Summer loving had me a blast.
Summer loving happened so fast.
I met a girl crazy for me.
Met a boy cute as can be.
Summer day. Drifting away to the summer nights.
Well, 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 tell me more, tell me more. Did you get very far?
Tell me more, tell me more. Like, does he have a car?
She swam by me, she got a cramp.
He ran by me, got my suit down.
I saved her life, she nearly drowned.
Qu'est-ce que ça fait plaisir. Je disais, on peut pas s'empêcher de sourire quand on entend ce titre. Merci Marc-Olivier.
Mais avec plaisir, Saskia.
Et puis merci pour cette belle saison. Je vous souhaite un très bel été.
C'était un bonheur.
À
vous aussi.
À très bientôt sur France Musique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Ellis Island, Meredith Monk, chanteuse, performeuse, danseuse, personnalité forte et originale au programme de ce disque, This is America. Disque enregistré en duo par Vanessa Wagner et Willem Lachoumia, paru chez la Dolce Volta il y a quelques semaines. La pianiste Vanessa Wagner, qui dirige aussi d'ailleurs le festival de Chambord, qui démarre aujourd'hui, qui fête ses 10 ans, festival qui démarre aujourd'hui. Et d'ici le 17 juillet, Vanessa Wagner vous propose 17 soirées de concerts. Un concert symphonique en ouverture, un hommage à Astor Piazzolla, Les Siècles, la violoncelliste Sol Gabetta, Alexandre Tarot, Adèle Charvet, ou encore demain à 16h, un concert en forêt, concert insolite où 5 saxophonistes regroupés sous le nom de la Grande Volière, eh bien, ces 5 musiciens deviendront oiseaux d'espèces différentes, perchés très haut dans les arbres. Un concert donc à découvrir dans le cadre de ce festival de Chambord qui fête ses 10 ans. Une seule adresse pour prendre vos places, www.chambord.org.
Thank you.
Sol Gabetta, ici accompagné par l'Orchestre Symphonique National du Danemark. Mario Venzago à la direction, c'était le rondo pour violoncelle et orchestre en sol mineur, opus 94, d'Antonin Dvorak. Il est 8h16. Il y a un peu plus d'un an, Télérama et le Théâtre de la Ville décidaient de se réunir pour organiser des débats à l'espace Cardin et se pencher ainsi sur la culture de demain. L'expérience qui avait fait naître 20 propositions a été réitérée il y a quelques jours avec deux journées autour de l'urgence du partage et de la jeunesse. Sophia Anastasio y était pour nous.
J'ai compris qu'il était grand temps de repenser mon avenir professionnel en dehors du monde académique.
C'est la dernière répétition pour les étudiantes qui s'apprêtent à participer à la table ronde sur la culture. Dans quelques instants, elles seront invitées à questionner, interpeller Jean-Philippe Thialet, directeur du Centre National de la Musique, Jean Bellorini, metteur en scène, et Sidonie Dumas, directrice générale de Gaumont, dans le cadre des journées L'urgence du partage. On écoute Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du Théâtre de la Ville.
Je suis très heureux d'abord que pendant cette période de pandémie, des étudiants, des étudiantes puissent se retrouver dans un théâtre pour débattre, échanger autour des grandes questions qui doivent nous, je dirais, nous réunir sur l'avenir, qui sont les questions autour de l'environnement, les questions autour des grandes thématiques comme la parité, la diversité, l'égalité des chances. Et ce qui était aujourd'hui très important, c'est de retenir que peut-être ce qui est interrogé, c'est le modèle lui-même.
Arrête de lire. Regarde le paysage. Me disaient mes parents. Ambivalent par rapport à cette passion dont, certes...
Parmi les thèmes, il y a eu la santé donc, mais aussi les sciences et l'engagement. Chaque table ronde était introduite par des textes écrits et récités par les étudiants et étudiantes. Et voici ce que Jean Bellorini a retenu de ceux sur la culture qui abordaient notamment la question du premier contact avec les arts.
Je me suis reconnu déjà, parce que moi aussi, si je suis maintenant dans le monde de la culture, c'est grâce au monde de l'éducation, c'est grâce au théâtre à l'école. Et au fond, voilà, ça me fait dire qu'on n'en fait pas assez et qu'il faut multiplier, qu'il faut donner plus d'écho à l'importance de pratiquer un art quand on est tout petit, quand on est jeune et quand on est en train de grandir.
Comment comptez-vous vous appuyer sur les jeunes pour construire l'offre culturelle et artistique de demain ?
Ont été abordées pendant cette table ronde plusieurs questions, pistes de réflexion, comme l'accès à la culture ou encore l'insertion professionnelle dans les milieux artistiques. Des sujets amenés par Céline Thibalmazia, étudiante en art du spectacle, Eve Rigaud, étudiante en médecine, et Jeanne Hamel, étudiante en sociologie. Nous leur avons demandé ce qu'elles avaient retenu de cette heure et demie de discussion.
Que c'était en effet nécessaire en fait, de rencontrer les étudiants et les professionnels et de trouver des solutions, les titiller sur des pistes de réflexion et les amener une grande réflexion en fait, et trouver peut-être des solutions, je me répète, mais...
Ouais, moi j'ai aussi retenu la bienveillance en fait des intervenants qui étaient là. On sait que c'est des gens qui sont très importants dans leur domaine, qui ont énormément de responsabilités, et j'ai trouvé qu'ils étaient très à l'écoute. Ensuite il faut voir s'il y a des mesures concrètes qui sont prises, hein, évidemment, mais en tout cas c'est par là que ça commence en fait. C'est pour qu'il y ait des mesures qui se mettent en place, il faut commencer à donner la parole aux personnes qui sont concernées en priorité, dont les étudiants surtout après la crise.
Dans le titre de ces rencontres, il y a le mot urgence, et quelle serait donc la priorité en termes de politique culturelle pour Jeanne Hamel, étudiante en sociologie ?
Surtout une urgence de faire arriver la culture à des endroits où on n'a pas forcément l'habitude de la voir. Et même à l'université, ça peut paraître évident. On se dit, mais il y a plein d'offres culturelles au sein des universités. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il n'y a pas de... on se rend compte qu'il n'y a pas forcément beaucoup de filières artistiques, en fait, au sein même des universités. Donc ça, pour moi, c'est une priorité pour pouvoir permettre à des personnes qui vont devenir des chercheurs, chercheuses dans leur domaine, d'avoir aussi à leur portée de l'offre culturelle qui leur permet de ne pas s'enfermer, en fait, dans leur discipline.
Après ces deux journées, les étudiants se sont réunis et ont décidé de réclamer un espace pour continuer d'alimenter les discussions et faire certainement de nouvelles propositions.
Et ces tables rondes étaient filmées, elles sont donc à retrouver sur les sites de Télérama, du Théâtre de la Ville et de la scène de recherche ENS Paris-Saclay. Merci beaucoup Sophia Anastasio pour ce reportage.
Thank you.
Thank you.
Le quatrième et dernier mouvement de ce quatuor numéro 3 en mi bémol majeur, Juan Crisóstomo de Arriaga, la composition, nous écoutions le quatuor Modigliani, qui reprend lui aussi la route des concerts. Rendez-vous le 5 juillet à 20h30 à Noyers-sur-Serein et le 8 juillet, aux côtés de Jean-Frédéric Neuburger, ce sera à la Tour Royale à Toulon. Simon Rattle et l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Nous écoutions ici dans la forêt de sapins, extrait de Casse-noisette de Tchaïkovski. Il est 8h31 sur France Musique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Mon invité de ce matin s'intéresse depuis quelques années déjà aux enjeux écologiques du spectacle théâtral. Isabelle Moindreau, professeure d'études théâtrales à l'Université Paris 8 et membre de l'Institut Universitaire de France qui l'accompagne dans son projet Opera and Climate Change, opéra et changement climatique. Bonjour Isabelle Moindreau.
Bonjour Saskia.
Et merci d'être avec nous sur France Musique. En quoi opéra et écologie se répondent-ils ?
Alors, ça n'est pas évident, parce qu'on n'imagine pas que l'opéra, qui est une forme d'art aussi complexe, qui mobilise autant d'artistes différents, qui est une forme d'art assez coûteuse, lourde dans son développement, puisse être concernée par les problématiques écologiques. Eh bien, c'est exactement le contraire, en fait. C'est parce que l'opéra est une forme d'art si, si riche qu'il doit opérer, lui aussi, sa mutation et aller sur la voie d'un fonctionnement plus éco-responsable.
Alors, vous venez ce matin nous parler d'une série d'enquêtes que vous avez coordonnées au sujet de cette thématique, hein, l'opéra écologie, pour la revue franco-belge Alternative Théâtrale. C'est un numéro qui paraîtra à la rentrée. Mais d'ici là, vous nous donnez rendez-vous cet été sur le blog blog.alternativetheatrale.be, sur lequel vous publiez deux articles chaque semaine à ce sujet. Justement, vous démarrez sur ce blog avec un édito baptisé « Opéra et écologie, une chimère ». Une idée sans rapport avec la réalité donc, mais vous posez la question, il y a un point d'interrogation.
Oui, tout à fait, c'est un numéro que j'ai coordonné avec Leïli Dariouche pour la revue Alternative Théâtrale et qui réunit une grande quantité de textes, d'entretiens, de reportages sur les réalités du spectacle vivant. Et de l'opéra en particulier, et pour l'accompagner, pour stimuler l'attention, nous avons prévu de lancer ce blog en amont de la publication du numéro qui devrait sortir à la rentrée. Et nous avons fait donc des enquêtes dans les différents métiers de l'opéra, que ce soit pour la réalisation des costumes, la fabrication, le stockage des décors, que ce soit des directeurs d'institutions qui ont des enjeux, des problématiques qui sont différentes encore et qui concernent aussi les publics, les programmations, les répertoires. Et puis, nous avons aussi un cahier critique. Nous sommes intéressés aussi aux pédagogues, aux jeunes générations qui entrent dans le métier, qui se passionnent pour l'opéra et dont ils vont faire leur avenir. Comment sont-ils concernés par ces enjeux? Comment voient-ils l'avenir de l'opéra? Comment peut-on inventer tous ensemble une forme qui soit viable demain.
Et plus adapté effectivement aux considérations d'aujourd'hui. Quelles sont les premières conclusions que vous tirez de ces entretiens, Isabelle Moindreau?
Écoutez, je dirais que il n'est pas possible de traiter la question écologique sans prendre en considération tous les paramètres. Et de ce point de vue-là, l'opéra est vraiment intéressant parce qu'il mobilise tellement de métiers différents. Et il les accorde. C'est ça qui est fascinant dans l'art lyrique, c'est que toutes ces sensibilités vont concourir à une œuvre commune et elles répondent à des logiques différentes de production dans le temps, de langage. Un scénographe n'a pas la même temporalité qu'un chanteur, par exemple. Donc, tout cela nous impose de considérer l'ensemble des paramètres. C'est-à-dire pas seulement les paramètres matériels auxquels on pense tout de suite, hein, quels matériaux, etc.
Les décors,
mais aussi,
etc.
Mais aussi les paramètres symboliques. Qu'est-ce qu'on cherche à dire? Qu'est-ce qu'on va représenter? Quelles œuvres on va choisir? Qu'est-ce qu'on va mettre en scène? Qu'est-ce qu'on va faire apparaître, qu'on va faire saillir dans une œuvre lyrique? Qu'est-ce qu'on va choisir?
Effectivement, le chantier est vaste, Isabelle
Moindreau. Oui, le chantier est vaste, mais il faut le coordonner.
Et donc, cette série d'entretiens pour réfléchir à ces questions, Isabelle Moindreau, on va écouter un son que vous avez souhaité partager avec nous, qui est assez fascinant. Allez, je ne vous en dis pas plus, on l'écoute. Thank you.
Isabelle Moindreau, racontez-nous, qu'entendons-nous?
Alors, ce sont des loups. Je ne suis pas du tout spécialiste des loups, mais j'ai été amenée à écouter cela à travers le philosophe Baptiste Morisot, qui a écrit des livres admirables sur la question, Les diplomates, et en particulier dans son dernier livre « Manière d'être vivant ». Il rapporte un propos d'un chanteur qui lui aurait dit « La voix, le chant, pardon, le chant est ce qui me reste du loup. » Et ce qu'il y a de si beau dans l'opéra peut-être, c'est ce chant que nous avons en commun, cette voix que nous partageons avec d'autres vivants, avec lesquels nous pouvons éventuellement entrer en relation, c'est pas si évident que ça, mais surtout ce que ce chant qui est choral nous fait entendre de ces loups, de cette meute de loups, c'est aussi que nous ne sommes pas seuls au monde. Et c'est cela que la perspective écologique nous invite à considérer.
Et puis j'aime beaucoup... Continuez.
La nature n'est plus seulement un décor, mais c'est un partenaire avec lequel nous pouvons construire notre vie avec laquelle dans laquelle nous sommes, dont nous sommes partis.
Il y a cette comment dire, collaboration qui peut se faire de manière volontaire. Il y a parfois aussi quelques miracles, et c'est le cas de ce votre choix musical ici, Casta Diva, chanté par composé par Vincenzo Bellini et chanté par Montserrat Caballé plutôt. Nous sommes en 1974 à Orange. Écoutez. Casta Diva, extrait de Norma de Bellini, chanté ici par Montserrat Caballé. Votre choix musical, Isabelle Moindreau, au Montserrat Caballé, accompagné par un curieux compagnon.
Oui, le Mistral ce soir-là s'est invité, comme souvent, à Orange. Et la cantatrice s'est surpassée. Et ce qu'on n'entend pas, pas d'une manière directe au son, mais qu'on voit à l'image, c'est à quel point le vent a participé aussi au spectacle en faisant voler les voiles, en entourant en quelque sorte les artistes de sa présence. Et la chanteuse a rendu là peut-être a donné là son interprétation la plus extraordinairement sublime.
Et c'est vrai que la vidéo est incroyable, et j'invite nos auditeurs qui ne la connaissent pas encore à aller taper sur un moteur de recherche un Montserrat Caballé, vous tapez Castadiva, Corrige d'Orange, vous allez tomber très facilement sur cette vidéo. Et c'est vrai que les voiles des différents costumes des femmes du chœur qui entourent Montserrat Caballé, qui virevoltent au son de cette air, ça tape absolument sublime. Vous alliez dire encore quelque chose, Isabelle Moindreau.
Oui, concernant cet extrait, on oublie souvent que le deuxième vers de l'air est une invocation à la déesse, à la chaste déesse, mais aussi à la déesse qui est au bois sacré dans lequel tout se trouve, toute la scène se déroule. Donc, très souvent, la présence naturelle est inscrite dans le texte. Et il suffit de s'y intéresser pour voir quelle interprétation nouvelle on peut donner en termes écologiques à ces œuvres.
Et j'aime beaucoup, il y a ces mots hein, que l'on peut lire dans cet édito, à lire sur le blog donc, de la revue Alternative Théâtrale. Vous écrivez ceci: le chant lyrique suscite l'admiration, le respect, la timidité, l'incompréhension, l'exaspération, la haine, la fureur, l'amour. En cela, il est à l'image de notre rapport au vivant, si complexe et enchevêtré. Qu'est-ce qui vous a, vous, à titre personnel, Isabelle Moindreau, vous êtes donc, je le rappelle, un professeur d'études théâtrales à l'Université Paris 8. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet théâtre et écologie, opéra et écologie ?
Très franchement, c'est l'actualité écologique. Ce sont les feux de forêt, c'est la disparition des espèces animales, c'est les oiseaux qui ne chantaient plus dans mon jardin. C'est ce genre de choses qui m'ont conduite à revoir ma façon de penser le monde et de faire beaucoup de lectures et de m'interroger sur mon rapport à l'art et à la modernité en particulier. Est-ce qu'il est si important de produire toujours de nouvelles œuvres originales, constamment produisant toutes sortes de matériaux, de déchets, etc. Donc j'ai été conduite à me poser la question moi-même et surtout à voir comment la hiérarchie des valeurs que je pensais intangibles en quelque sorte, l'esthétique étant pour moi la valeur suprême en quelque sorte, pouvait être modifiée par cette nouvelle façon de considérer les choses en intégrant une dimension plus philosophique, plus morale peut-être d'une certaine façon, et de partir de l'existant, des ressources que nous avons, et non pas considérer qu'elles sont inépuisables et que finalement, parce qu'elles sont inépuisables, elles ne compteraient pas.
Alors justement, comment pourrait-on qualifier la période que l'opéra traverse actuellement en regard des défis écologiques qui nous attendent ?
Franchement, je trouve que c'est extrêmement stimulant. Dans notre enquête, ce qui nous a frappé tous, c'est l'enthousiasme des artistes, des artisans, des professionnels du spectacle et bien sûr de la jeune génération qui est directement concernée, à l'idée de pouvoir réinventer un modèle, de pouvoir remettre sur les rails l'opéra avec d'autres considérations que simplement la production incessante de spectacles nouveaux avec toujours l'idée de, enfin, sur la même lancée. Donc plutôt la stimulation, plutôt l'excitation d'avoir de nouvelles possibilités de création, d'invention à partir de ces œuvres que nous aimons.
Je vous invite, chers auditeurs, à aller promener votre regard sur ce blog.alternativetheatrale.be. Vous trouverez la reste sur notre site, sur la page de l'émission sur francemusique.fr. En attendant la sortie de la revue en septembre, donc des articles publiés chaque semaine depuis le 1er juillet sur ce blog au sujet d'opéra et écologie, sujet qui vous tient à cœur et qui nous tient à cœur. Isabelle Moindreau, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et puis, un petit mot aussi rapidement sur ce colloque que vous aviez organisé à l'Opéra Comique, La nature n'est plus un décor, le spectacle lyrique face aux défis écologiques dont on avait parlé dans cette émission. Un deuxième volet est prévu l'an prochain, en mars prochain. On vous tiendra bien évidemment informé de cet événement. On se quitte avec votre dernier choix musical, Dust de Benedict Schlepper Connolly. Merci beaucoup Isabelle Moindreau et à très bientôt.
Merci Saskia.
Un extrait de Dust de Benedict Schlepper-Connelly. On écoutait Michel O'Rourke, un extrait de cet opéra que vous pouvez découvrir sur le site de l'Opéra National d'Irlande. 20 opéras shot comme un shot de café, à découvrir donc sur ce site. Et allez-y, parce que c'est fascinant. Il est 8h50. Et c'est l'heure de la chronique de Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia.
Où allons-nous ce matin?
Direction, enfin c'est 8000 km, il faut traverser l'Atlantique.
Oui, parfait.
Les Caraïbes, les Antilles, une petite île de 70 km sur 30 qui s'appelle la Martinique.
Oh, ça me va bien comme destination. Oui, c'est parfait.
Ah, c'est plus ambigu qu'il n'y paraît. Hein.
Dites-moi tout.
Bah, le morceau s'appelle Sun. Mais il n'y a pas que du soleil dedans. Je t'ai imaginé sur la plage qui domine les montagnes du pays. Lorsque je te regarde, mon cœur vire. Je me demande si je rêve. Alors c'est JM Harmony, un groupe que j'adore.
Ah, je croyais que c'était pour moi, pardon.
Ah, non, pardon. C'est JM Harmony, un groupe qui a été fondé en 1982 par deux grands fans de La Perfecta. Vous vous souvenez de La Perfecta? Je vous avais fait écouter.
Oui, absolument.
En Nous Aller, notamment, le morceau. Ces deux personnes s'appellent Emmanuel Granier et Joël Zabulon, au clavier et composition et arrangement. Et voilà, c'est la richesse de la Caraïbe et des Antilles. de la Martinique en particulier ici, mais c'est voilà comment ils arrivent à mélanger dans, à ces époques salsa, rumba,
j'adore,
merengue, le compas haïtien aussi, le jazz, le calypso, quoi d'autre. Et puis les Beatles aussi, vous sonnez, je vous ai dit, parce que dans Perfecta, il y avait vraiment un amour des Beatles et des grilles d'accord des Beatles, c'est-à-dire de la pop, voilà, qui a priori ne ressemble pas aux Caraïbes, mais voilà, ils ont mélangé tout ça à l'époque, et ce morceau, je l'écoute depuis que je suis tout petit, ça s'appelle Sun, voilà, j'adore les arrangements, on a quoi dedans, on va écouter un petit peu, je vais vous dire l'instrumentation au fur et à mesure, on va écouter, il y a plein de thèmes en fait, le morceau il doit faire 7 minutes, et il y a plein de thèmes, plein de parties, comme faisaient ces groupes antillais à l'époque, vraiment des morceaux à tiroir, et il y a plein de thèmes de cuivre et des super beaux arrangements, donc on va écouter, attendez, j'en suis, le deuxième extrait c'est le couplet, voilà, le couplet numéro 2, on écoute. Et là on va passer, on va changer de tonalité, écoutez ça.
Et... Ah ouais.
Si bémol. Et encore une fois. Et... Voilà, quelques accords, 8 accords. Huit accords géniaux, je trouve, parce qu'ils ont, ils sont pas évidents, en fait. Ce que ça dégage comme sentiment n'est pas évident. Pas évident à dire, c'est pour ça que je parlais d'ambiguïté, puis il y en a plein aux Antilles, de l'ambiguïté. Comme je vous le disais, il y a la créolisation, c'était ce mélange de l'inattendu, quoi. On va écouter le refrain qui dit « Let's have a good time ». Mais vous allez sentir de la nostalgie dans ces accords et autre chose que juste du let's have a good time. Oui.
Et puis passons un bon temps, un bon moment.
Ouais, mais c'est ça. Disons let's have a good time. Voilà, il nous parle de la plage. Je pense que c'est beaucoup plus. Les paroles sont beaucoup plus subtiles que juste let's have a good time. On écoute le refrain. Regarde le nom des choristes. Oubabou complexé. Alors il y a un enchevêtrement de... Attendez, la guitare et le piano électrique, mais c'est une grande science la façon dont ça s'enchevêtre et tout ce qu'il y a au milieu en fait. Bon là, on a... Oui,
le non, nom... pardon, j'ai la pochette.
La pochette,
ouais. Sous les yeux, elle est quand même fabuleuse.
Elle est fabuleuse. Avec le nom... Emmanuel Grani était moniteur d'auto-école à... Pas du tout musicien professionnel au début.
D'accord.
Le groupe est devenu un groupe très connu qui a 30 ans de carrière et qui a plutôt fait du zouk ensuite. Mais là, c'est ce premier album, c'est vraiment, c'est roots, quoi. J'entends, le son est génial, la batterie, ça joue. C'est pas, les batteries du zouk, plutôt, les batteries programmées du zouk. Là, c'est vraiment de la batterie mat. C'est Romain Palude, le batteur, j'adore. Et puis, il y a la section cuivre. Il y a Joël Zabulon au clavier. Et trois chanteurs, Marius Priam qui chantait déjà aussi dans la Perfecta, Jean-Paul Pognon, non pas de rire.
Si, Jean-Paul
Pognon.
Excellente.
Ok, d'accord. Il s'appelle Jean-Paul Pognon. Et quel est le nom du troisième chanteur?
Alex Villon.
Voilà. On va écouter maintenant une technique que j'adore, qui s'appelle la technique de tuilage. On l'avait écouté dans Voodoo de D'Angelo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le morceau The Line, c'est quand on fait une phrase, on fait un motif musical, on le tient et par dessus, ben les autres font le même et ils tiennent la note. Et ça nous donne l'accord. Sol, do, mi, sol. Sol, do, mi. Ok, on écoute le tuilage. Est-ce que vous préférez écouter, parce qu'il y a encore plein de parties dans ce morceau, les solos guitare sax ou bien le moment à la toute fin quand ça se transforme en reggae?
Le reggae.
Ok, d'accord. Bah, transforme en reggae. C'est pour montrer la versatilité des musiciens antillais. Hein. les mêmes accords. Hein.
Mais c'est bien, on va le garder pour terminer l'émission. JM Harmony, ce titre sonne. Ouais. Merci Christophe.
Ruez-vous, c'est sur YouTube. Allez sur YouTube parce que le disque est hyper dur à trouver. Hein. Moi j'ai dû le copier du vinyle.
Ah oui, c'est
et
vrai
tout. Ouais, ouais. C'est le premier disque de JM Harmony et vous tapez JM Harmony et Sun, S-U-N, si vous voulez réécouter ce morceau qui est quand même dément.
Moi, mille merci, je ne me lasse Christophe, pas. Et on ne se lasse pas de vous. Merci pour cette belle saison de chronique.
Avec plaisir.
Je vous souhaite un très bel été.
À vous aussi, ça se
mais
fait.
Oui.
Ouais, bah, moi, je vais en Martinique d'ailleurs.
Pardon ?
Je vais en Martinique d'ailleurs.
Vous avez bien raison.
Bah, oui.
À réécouter sur francemusique.fr.